passais toutes mes nuits chez Marthe. J'y arrivais à 10h30, j'en repartais le matin à 5 ou 6. Je ne sautais plus par-dessus les murs, je me contentais d'ouvrir la porte avec ma clé. Mais cette franchise exigeait quelques soins. Pour que la cloche ne donnât pas l'éveil, j'enveloppais le soir son battant avec de l'ouate. Je l'ôtais le lendemain en rentrant. À la maison, personne ne se doutait de mes absences. Il n'en allait pas de même à J. Depuis quelque temps déjà, les propriétaires et le vieux ménage me voyaient d'un assez mauvais œil, répondant à peine à mes saluts. Le matin, à 5h, pour faire le moins de bruit possible, je descendais mes souliers à la main. Je les remettais en bas. Un matin, je croisais dans l'escalier le garçon laitier. Il tenait ses boîtes de lait à la main. Je tenais, moi, mes souliers. Il me souhaita le bonjour avec un sourire terrible. Marthe était perdue. Il allait le raconter dans tout J. Ce qui me torturait encore le plus était mon ridicule. Je pouvais acheter le silence du garçon laitier, mais je m'en abstins, faute de savoir comment m'y prendre. L'après-midi, je n'osais rien en dire à Marthe. D'ailleurs, cet épisode était inutile pour que Marthe fût compromise. C'était depuis longtemps chose faite. La rumeur me l'attribua même comme maîtresse bien avant la réalité. Nous ne nous étions rendus compte de rien. Nous allions bientôt voir clair. C'est ainsi qu'un jour, je trouvai Marthe sans force. Le propriétaire venait de lui dire que depuis 4 jours, il guettait mon départ à l'aube. Il avait d'abord refusé de croire, mais il ne lui restait aucun doute. Le vieux ménage, dont la chambre était sous celle de Marthe, se plaignait du bruit que nous faisions nuit et jour. Marthe était atterrée, voulait partir. Il ne fut pas question d'apporter un peu de prudence dans nos rendez-vous. Nous nous en sentions incapables. Le pli était pris. Alors, Marthe commença de comprendre bien des choses qui l'avaient surprise. La seule amie qu'elle chérit vraiment, une jeune fille suédoise, ne répondait pas à ses lettres. J'appris que le correspondant de cette jeune fille, nous ayant un jour aperçus dans le train, enlacé, il lui avait conseillé de ne pas revoir Marthe. Je fis promettre à Marthe que s'il éclatait un drame, où que ce fût, soit chez ses parents, soit avec son mari, elle montrerait de la fermeté. Les menaces du propriétaire, quelques rumeurs, me donnaient tout lieu de craindre, et d'espérer à la fois, une explication entre Marthe et Jacques. Marthe m'avait supplié de venir la voir souvent pendant la permission de Jacques, à qui elle avait déjà parlé de moi. Je refusais, redoutant de jouer mal mon rôle et de voir Marthe avec un homme empressé auprès d'elle. La permission devait être de 11 jours. Peut-être tricherait-il et trouverait-il le moyen de rester 2 jours de plus. Je fis jurer à Marthe de m'écrire chaque jour. J'attendis 3 jours avant de me rendre à la poste restante pour être sûr de trouver une lettre. Il y en avait déjà 4. Je ne pus les prendre. Il me manquait un des papiers d'identité nécessaires. J'étais d'autant moins à l'aise que j'avais falsifié mon bulletin de naissance, l'usage de la poste restante n'étant permis qu'à partir de 18 ans. J'insistais au guichet, avec l'envie de jeter du poivre dans les yeux de la demoiselle des postes, de m'emparer des lettres qu'elle tenait et ne me donnerait pas. Enfin, comme j'étais connue à la poste, j'obtins, faute de mieux, qu'on les envoyât le lendemain chez mes parents. Décidément, j'avais encore fort à faire pour devenir un homme. En ouvrant la première lettre de Marthe, je me demandais comment elle exécuterait ce tour de force, écrire une lettre d'amour. J'oubliais qu'aucun genre épistolaire n'est moins difficile. Il n'y ait besoin que d'amour. Je trouvais les lettres de Marthe admirables et dignes des plus belles que j'avais lues. Pourtant, Marthe m'y disait des choses bien ordinaires et son supplice de vivre loin de moi. Il m'étonnait que ma jalousie ne fût pas plus mordante. Je commençais à considérer Jacques comme le mari. Peu à peu, j'oubliais sa jeunesse, je voyais en lui un barbon. Je n'écrivais pas à Marthe. Il y avait tout de même trop de risques. Au fond, je me trouvais plutôt heureux d'être tenu à ne pas lui écrire, éprouvant, comme devant toute nouveauté, la crainte vague de n'être pas capable, et que mes lettres la choquassent ou lui parussent naïves. Ma négligence fit qu'au bout de 2 jours, ayant laissé traîner sur ma table de travail une lettre de Marthe, elle disparut. Le lendemain, elle reparut sur la table. La découverte de cette lettre dérangeait mes plans. J'avais profité de la permission de Jacques, de mes longues heures de présence, pour faire croire chez moi que je me détachais de Marthe. Car, si je m'étais d'abord montré fanfaron pour que mes parents apprissent que j'avais une maîtresse, je commençais à souhaiter qu'ils eussent moins de preuves. Et voici que mon père apprenait la véritable cause de ma sagesse. Je profitais de ses loisirs pour de nouveau me rendre à l'académie de dessin, car depuis longtemps, je dessinais mes nus d'après Marthe. Je ne sais pas si mon père le devinait. Du moins, s'étonnait-il malicieusement, et d'une manière qui me faisait rougir, de la monotonie des modèles. Je retournai donc à la grande chaumière, travaillai beaucoup, afin de réunir une provision d'études pour le reste de l'année, provision que je renouvellerai à la prochaine visite du mari. Je revis aussi René, renvoyé de Henri IV. Il allait à Louis le Grand. Je l'y cherchai tous les soirs, après la grande chaumière. Nous nous fréquentions en cachette, car depuis son renvoi de Henri IV, et surtout depuis Marthe, ses parents, qui naguère me considéraient comme un bon exemple, lui avaient défendu ma compagnie. René, pour qui l'amour, dans l'amour, semblait un bagage encombrant, me plaisantait sur ma passion pour Marthe. Ne pouvant supporter ses pointes, je lui dis lâchement que je n'avais pas de véritable amour. Son admiration pour moi, qui ces derniers temps avait faibli, s'en accrut séance tenante. Je commençais à m'endormir sur l'amour de Marthe. Ce qui me tourmentait le plus, c'était le jeûne infligé à mes sens. Mon énervement était celui d'un pianiste sans piano, d'un fumeur sans cigarette. René, qui se moquait de mon cœur, était pourtant épris d'une femme qu'il croyait aimer sans amour. Ce gracieux animal, espagnol blonde, se désarticulait si bien qu'il devait sortir d'un cirque. René, qui feignait la désinvolture, était fort jaloux. Il me supplia, mi-riant, mi-pâlissant, de lui rendre un service bizarre. Ce service, pour qui connaît le collège, était l'idée type du collégien. Il désirait savoir si cette femme le tromperait. Il s'agissait donc de lui faire des avances pour se rendre compte. Ce service m'embarrassa. Ma timidité reprenait le dessus. Mais pour rien au monde, je n'aurais voulu paraître timide. Et du reste, la dame vint me tirer d'embarras. Elle me fit des avances si promptes que la timidité, qui empêche certaines choses et oblige à d'autres, m'empêcha de respecter René et Marthe. Du moins, espérais-je y trouver du plaisir, mais j'étais comme le fumeur habitué à une seule marque. Il ne me resta donc que le remords d'avoir trompé René, à qui je jurais que sa maîtresse repoussait toute avance. Vis-à-vis de Marthe, je n'éprouvais aucun remords. Je m'y forçais. J'avais beau me dire que je ne lui pardonnerais jamais si elle me trompait, je n'y pus rien. « Ce n'est pas pareil !» me donnais-je comme excuse avec la remarquable platitude que l'égoïsme apporte dans ses réponses. De même, j'admettais fort bien de ne pas écrire à Marthe. Mais si elle ne m'avait pas écrit, j'y eusse vu qu'elle ne m'aimait pas. Pourtant, cette légère infidélité renforça mon amour. Jacques, ne comprenait rien à l'attitude de sa femme. Marthe, plutôt bavarde, ne lui adressait pas la parole. S'il lui demandait « Qu'as-tu ?» elle répondait « Rien !» Madame Grangier eut différentes scènes avec le pauvre Jacques. Elle l'accusait de maladresse envers sa fille, se repentait de la lui avoir donnée. Elle attribuait à cette maladresse de Jacques le brusque changement survenu dans le caractère de sa fille. Elle voulut la reprendre chez elle. Jacques s'inclina. Quelques jours après son arrivée, il accompagna Marthe chez sa mère, qui, flattant ses moindres caprices, encourageait, sans se rendre compte, son amour pour moi. Marthe était née dans cette demeure. « Chaque chose, disait-elle à Jacques, lui rappelait le temps heureux où elle s'appartenait. Elle devait dormir dans sa chambre de jeune fille. Jacques voulut que tout au moins on y dressât un lit pour lui. Il provoqua une crise de nerfs. Marthe refusait de souiller cette chambre virginale. Monsieur Grangier trouvait ses pudeurs absurdes. Madame Grangier en profita pour dire à son mari et à son gendre qu'il ne comprenait rien à la délicatesse féminine. Elle se sentait flattée que l'âme de sa fille appartint si peu à Jacques. Car tout ce que Marthe ôtait à son mari, Madame Grangier se l'attribuait, trouvant ses scrupules sublimes. Sublimes, il l'était, mais pour moi. Les jours où Marthe se prétendait le plus malade, elle exigeait de sortir. Jacques savait bien que ce n'était pas pour le plaisir de l'accompagner. Marthe, ne pouvant confier à personne les lettres à mon adresse, les mettait elle-même à la poste. Je me félicitais encore plus de mon silence, car si j'avais pu lui écrire, en réponse au récit des tortures qu'elle infligeait, je fusse intervenu en faveur de la victime. À certains moments, je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur. À d'autres, je me disais que Marthe ne punirait jamais assez Jacques du crime de me l'avoir prise vierge. Mais comme rien ne nous rend moins sentimental que la passion, j'étais, somme toute, ravie de ne pouvoir écrire, et qu'ainsi Marthe continua de désespérer Jacques. Il repartit sans courage. Tous mirent cette crise sur le compte de la solitude énervante dans laquelle vivait Marthe, car ses parents et son mari étaient les seuls à ignorer notre liaison, les propriétaires n'osant rien apprendre à Jacques par respect pour l'uniforme. Madame Grangier se félicitait déjà de retrouver sa fille et qu'elle vécût comme avant son mariage. Aussi, les Grangier n'en revinrent-ils pas lorsque Marthe, le lendemain du départ de Jacques, annonça qu'elle retournait à J. Je l'y revis le jour même. D'abord, je la grondais mollement d'avoir été si méchante. Mais quand je lus la première lettre de Jacques, je fus pris de panique. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Je ne démêlai pas le chantage. Je me vis responsable d'une mort, oubliant que je l'avais souhaité. Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste. De quelque côté que nous nous tournions, s'ouvrait une blessure. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'était moi qui l'obligeais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçues. Elle les écrivait en se cabrant, en pleurant, mais je la menaçais de ne jamais revenir si elle n'obéissait pas. Que Jacques me dût ses seules joies, atténuait mes remords. Je vis combien son désir de suicide était superficiel, à l'espoir qui débordait de ses lettres en réponse aux nôtres. J'admirais mon attitude vis-à-vis du pauvre Jacques. Alors, que j'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crime sur la conscience. Une période heureuse succéda au drame. Hélas, un sentiment de provisoire subsistait. Il tenait à mon âge et à ma nature veule. Je n'avais de volonté pour rien, ni pour fuir Marthe, qui peut-être m'oublierait et retournerait au devoir, ni pour pousser Jacques dans la mort. Notre union était donc à la merci de la paix, du retour définitif des troupes. Qu'il chasse sa femme, elle me resterait. Qu'il la garde, je me sentais incapable de la lui reprendre de force. Notre bonheur était un château de sable. Mais ici, la marée n'étant pas à heure fixe, j'espérais qu'elle monterait le plus tard possible. Maintenant, c'est Jacques, charmé, qui défendait Marthe contre sa mère, mécontente du retour agi. Ce retour, l'aigreur aidant, avait du reste éveillé chez Madame Grangier quelques soupçons. Autre chose lui paraissait suspect. Marthe refusait d'avoir des domestiques, au grand scandale de sa famille, et encore plus de sa belle famille. Mais que pouvaient parents et beaux-parents contre Jacques, devenu notre allié, grâce aux raisons que je lui donnais par l'intermédiaire de Marthe? C'est alors que J ouvrit le feu sur elle. Les propriétaires affectaient de ne plus lui parler. Personne ne la saluait. Seuls les fournisseurs étaient professionnellement tenus à moins de morgue. Aussi, Marthe, sentant quelquefois le besoin d'échanger des paroles, s'attardait dans les boutiques. Lorsque j'étais chez elle, si elle s'absentait pour acheter du lait et des gâteaux, et qu'au bout de 5 minutes elle ne fut pas de retour, l'imaginant sous un tramway, je courais à toutes jambes, jusque chez la crémière ou le pâtissier. Je l'y trouvais causant avec eux. Fou de m'être laissé prendre à mes angoisses nerveuses, aussitôt dehors, je m'emportais. Je l'accusais d'avoir des goûts vulgaires, de trouver un charme à la conversation des fournisseurs. Ceux-ci, dont j'interrompais les propos, me détestaient. L'étiquette des cours est assez simple, comme tout ce qui est noble. Mais rien n'égale en énigme le protocole des petites gens. Leur folie des préséances se fonde, d'abord, sur l'âge. Rien ne les choquerait plus que la révérence d'une vieille duchesse à quelque jeune prince. On devine la haine du pâtissier, de la crémière, à voir un gamin interrompre leur rapport familier avec Marthe. Ils lui eussent, à elle, trouvé 1000 excuses à cause de ces conversations. Les propriétaires avaient un fils de 22 ans. Il vint en permission. Marthe l'invita à prendre le thé. Le soir, nous entendîmes des éclats de voix. On lui défendait de revoir la locataire. Habitué à ce que mon père ne mît son veto à aucun de mes actes, rien ne m'étonna plus que l'obéissance du dadais. Le lendemain, comme nous traversions le jardin, il bêchait. Sans doute était-ce un pensum. Un peu gêné, malgré tout, il détourna la tête pour ne pas avoir à dire bonjour. Ces escarmouches peinaient Marthe, assez intelligente et assez amoureuse pour se rendre compte que le bonheur ne réside pas dans la considération des voisins. Elle était comme ces poètes qui savent que la vraie poésie est chose maudite, mais qui, malgré leur certitude, souffrent parfois de ne pas obtenir les suffrages qu'ils méprisent. Les conseillers municipaux jouent toujours un rôle dans mes aventures. Monsieur Marin, qui habitait en dessous de chez Marthe, vieillard à barbe grise et de stature noble, était un ancien conseiller municipal de J. Retiré dès avant la guerre, il aimait servir la patrie lorsque l'occasion se présentait à portée de sa main. Se contentant de désapprouver la politique communale, il vivait avec sa femme, ne recevant et ne rendant de visite qu'aux approches de la nouvelle année. Depuis quelques jours, un remue-ménage se faisait au-dessous, d'autant plus distinct que nous entendions de notre chambre les moindres bruits du rez-de-chaussée. Des traiteurs vinrent. La bonne, aidée par celle du propriétaire, astiquait l'argenterie dans le jardin, ôtait le vert-de-gris des suspensions de cuivre. Nous sûmes par la crémière qu'un raout surprise se préparait chez les marins, sous un mystérieux prétexte. Madame Marin était allée inviter le maire et le supplier de lui accorder 8 litres de lait. Autoriserait-il aussi la marchande à faire de la crème ? Les permis accordés, le jour venu, un vendredi, une quinzaine de notables parurent à leur dite avec leurs femmes, chacune fondatrice d'une société d'allaitement maternel ou de secours aux blessés, dont elle était présidente, et les autres sociétaires. La maîtresse de cette maison, pour faire genre, recevait devant la porte. Elle avait profité de l'attraction mystérieuse pour transformer son raout en pique-nique. Toutes ces dames prêchaient l'économie et inventaient des recettes. Aussi, leur douceur était-elle des gâteaux sans farine, des crèmes au lichen, etc. Chaque nouvelle arrivante disait à Madame Marin « Oh, ça ne paye pas de mine, mais je crois que ce sera bon tout de même. » Monsieur Marin, lui, profitait de ce raout pour préparer sa rentrée politique. Or, la surprise, c'était Marthe et moi. La charitable indiscrétion d'un de mes camarades de chemin de fer, le fils d'un des notables, me l'apprit. Jugez de ma stupeur quand je sus que la distraction des marins était de se tenir sous notre chambre vers la fin de l'après-midi et de surprendre nos caresses. Sans doute y avaient-ils pris goût et voulaient-ils publier leur plaisir. Bien entendu, les marins, gens respectables, mettaient ce dévergondage sur le compte de la morale. Ils voulaient faire partager leur révolte par tout ce que la commune comptait de gens comme il faut. Les invités étaient en place. Madame Marin me savait chez Marthe et avait dressé la table sous sa chambre. Elle piaffait. Elle eût voulu la canne du régisseur pour annoncer le spectacle. Grâce à l'indiscrétion du jeune homme, qui trahissait pour mystifier sa famille et par solidarité d'âge, nous gardâmes le silence. Je n'avais pas osé dire à Marthe le motif du pique-nique. Je pensais au visage décomposé de Madame Marin, les yeux sur les aiguilles de l'horloge et à l'impatience de ses hôtes. Enfin, vers 7 heures, les couples se retirèrent bredouilles, traitant tout bas les marins d'imposteurs, et le pauvre monsieur Marin, âgé de 70 ans, d'arriviste. Ce futur conseiller vous promettait monts et merveilles, et n'attendait même pas d'être élu pour manquer à sa promesse. En ce qui concernait Madame Marin, ces dames virent dans le raout un moyen avantageux pour elles de se fournir du dessert. Le maire, en personnage, avait paru juste quelques minutes. Ces quelques minutes et les 8 litres de lait firent chuchoter qu'il était du dernier bien avec la fille des marins, institutrice à l'école. Le mariage de Mademoiselle Marin avait jadis fait scandale, paraissant peu digne d'une institutrice, car elle avait épousé un sergent de ville. Je poussai la malice jusqu'à leur faire entendre ce qu'ils eussent souhaité faire entendre aux autres. Marthe s'étonna de cette tardive ardeur. Ne pouvant plus y tenir, et au risque de la chagriner, je lui dis quel était le but du raout. Nous en rîmes ensemble aux larmes. Madame Marin, peut-être indulgente si j'eusse servi ses plans, ne nous pardonna pas son désastre. Il lui donna de la haine, mais elle ne pouvait l'assouvir, ne disposant plus de moyens, et n'osant user de lettres anonymes. Nous étions au mois de mai. Je rencontrai moins Marthe chez elle et n'y couchai que si je pouvais inventer chez moi un mensonge pour y rester le matin. Je l'inventais une ou deux fois la semaine. La perpétuelle réussite de mon mensonge me surprenait. En réalité, mon père ne me croyait pas. Avec une folle indulgence, il fermait les yeux, à la seule condition que ni mes frères ni les domestiques ne l'apprissent. Il me suffisait donc de dire que je partais à 5 heures du matin, comme le jour de ma promenade à la forêt de Sénard. Mais ma mère ne préparait plus de panier. Mon père supportait tout. Puis, sans transition, ce cabrant me reprochait ma paresse. Ses scènes se déchaînaient et se calmaient vite, comme les vagues. Rien n'absorbe plus que l'amour. On n'est pas paresseux parce que, étant amoureux, on paresse. L'amour sent confusément que son seul dérivatif réel est le travail. Aussi le considère-t-il comme un rival, et il n'en supporte aucun. Mais l'amour est paresse bienfaisante, comme la molle pluie qui féconde. Si la jeunesse est niaise, c'est faute d'avoir été paresseuse. Ce qui infirme nos systèmes d'éducation, c'est qu'ils s'adressent aux médiocres à cause du nombre. Pour un esprit en marche, la paresse n'existe pas. Je n'ai jamais plus appris que dans ces longues journées, qui, pour un témoin, eussent semblé vides, et où j'observais mon cœur novice comme un parvenu observe ses gestes à table. Quand je ne couchais pas chez Marthe, c'est-à-dire presque tous les jours, nous nous promenions après dîner le long de la Marne jusqu'à 11 heures. Je détachais le canot de mon père. Marthe ramait, moi, étendue, j'appuyais ma tête sur ses genoux. Je la gênais. Soudain, un coup de rame me cognant me rappelait que cette promenade ne durerait pas toute la vie. L'amour veut faire partager sa béatitude. Ainsi, une maîtresse de nature assez froide devient caressante, nous embrasse dans le cou, invente 1000 agaceries si nous sommes en train d'écrire une lettre. Je n'avais jamais tel désir d'embrasser Marthe que lorsqu'un travail la distrayait de moi. Jamais tant envie de toucher à ses cheveux, de la décoiffer, que quand elle se coiffait. Dans le canot, je me précipitais sur elle, la jonchant de baisers, pour qu'elle lâchât ses rames, et que le canot dérivât, prisonnier des herbes, des nénuphars blancs et jaunes. Elle y reconnaissait les signes d'une passion incapable de se contenir, alors que me poussait surtout la manie de déranger, si forte. Puis nous amarrions le canot derrière les hautes touffes. La crainte d'être visible, ou de chavirer, me rendait nos ébats 1000 fois plus voluptueux. Aussi ne me plaignais-je point de l'hostilité des propriétaires, qui rendait ma présence chez Marthe très difficile. Ma prétendue idée fixe de la posséder, comme ne l'avait pu posséder Jacques, d'embrasser un coin de sa peau après lui avoir fait jurer que jamais d'autres lèvres que les miennes ne s'y étaient mises, n'était que du libertinage. Me l'avouais-je ? Tout amour comporte sa jeunesse, son âge mûr, sa vieillesse. Étais-je à ce dernier stade où déjà l'amour ne me satisfaisait plus sans certaines recherches ? Car si ma volupté s'appuyait sur l'habitude, elle s'avivait de ces 1000 riens, de ces légères corrections infligées à l'habitude. Ainsi, n'était-ce pas d'abord dans l'augmentation des doses, qui vite deviendrait mortelle, qu'un intoxiqué trouve l'extase, mais dans le rythme qu'il invente, soit en changeant ses heures, soit en usant de supercheries pour dérouter l'organisme. J'aimais tant cette rive gauche de la Marne que je fréquentais l'autre, si différente, afin de pouvoir contempler celle que j'aimais. La rive droite est moins molle, consacrée aux maraîchers, aux cultivateurs, alors que la mienne l'est aux oisifs. Nous attachions le canot à un arbre, allions nous étendre au milieu du blé. Le champ, sous la brise du soir, frissonnait. Notre égoïsme, dans sa cachette, oubliait le préjudice, sacrifiant le blé au confort de notre amour, comme nous y sacrifions Jacques. Un parfum de provisoire excitait mes sens. D'avoir goûté à des joies plus brutales, plus ressemblantes à celles qu'on éprouve sans amour avec la première venue, affadissait les autres. J'appréciais déjà le sommeil chaste, libre, le bien-être de se sentir seul dans un lit aux draps frais. J'alléguais des raisons de prudence pour ne plus passer de nuit chez Marthe. Elle admirait ma force de caractère. Je redoutais aussi l'agacement que donne une certaine voix angélique des femmes qui s'éveillent et qui, comédiennes de race, semblent chaque matin sortir de l'au-delà. je me reprochais mes critiques, mes feintes, passant des journées à me demander si j'aimais Marthe plus ou moins que naguère. Mon amour sophistique est tout. De même que je traduisais faussement les phrases de Marthe, croyant leur donner un sens plus profond, j'interprétais ses silences. Ai-je toujours eu tort? Un certain choc, qui ne se peut décrire, nous prévenant que nous avons touché juste. Mes jouissances, mes angoisses étaient plus fortes. Couchée auprès d'elle, l'envie qui me prenait d'une seconde à l'autre d'être couchée seule chez mes parents me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune. D'autre part, je ne pouvais imaginer de vivre sans Marthe. Je commençais à connaître le châtiment de l'adultère. J'en voulais à Marthe d'avoir, avant notre amour, consenti à meubler la maison de Jacques à ma guise. Ces meubles me devinrent odieux, que je n'avais pas choisis pour mon plaisir, mais afin de déplaire à Jacques. Je m'en fatiguais, sans excuse. Je regrettais de n'avoir pas laissé Marthe les choisir seule. Sans doute m'eussent-ils d'abord déplu, mais quel charme ensuite de m'y habituer par amour pour elle. J'étais jaloux que le bénéfice de cette habitude revint à Jacques. Marthe me regardait avec de grands yeux naïfs lorsque je lui disais amèrement « J'espère que, quand nous vivrons ensemble, nous ne garderons pas ces meubles. » Elle respectait tout ce que je disais. Croyant que j'avais oublié que ces meubles venaient de moi, elle n'osait me le rappeler. Elle se lamentait intérieurement de ma mauvaise mémoire. Dans les premiers jours de juin, Marthe reçut une lettre de Jacques où, enfin, il ne l'entretenait pas que de son amour. Il était malade. On l'évacuait à l'hôpital de Bourges. Je ne me réjouissais pas de le savoir malade, mais qu'il eût quelque chose à dire me soulageait. Passant par J, le lendemain ou le surlendemain, il suppliait Marthe qu'elle guettât son train sur le quai de la gare. Marthe me montra cette lettre. Elle attendait un ordre. L'amour lui donnait une nature d'esclave. Aussi, en face d'une telle préambulaire, avais-je du mal à ordonner ou défendre. Selon moi, mon silence voulait dire que je consentais. Pouvais-je l'empêcher d'apercevoir son mari pendant quelques secondes? Elle garda le même silence. Donc, par une espèce de convention tacite, je n'allais pas chez elle le lendemain. Le surlendemain matin, un commissionnaire m'apporta chez mes parents un mot qu'il ne devait remettre qu'à moi. Il était de Marthe. Elle m'attendait au bord de l'eau. Elle me suppliait de venir si j'avais encore de l'amour pour elle. Je courus jusqu'au banc sur lequel Marthe m'attendait. Son bonjour, si peu en rapport avec le style de son billet, me glaça. Je crus son cœur changer. Simplement, Marthe avait pris mon silence de l'avant-veille pour un silence hostile. Elle n'avait pas imaginé la moindre convention tacite. À des heures d'angoisse, succédait le grief de me voir en vie, puisque seule la mort eût dû m'empêcher de venir hier. Ma stupeur ne pouvait se feindre. Je lui expliquai ma réserve, mon respect pour ses devoirs envers chaque malade. Elle me crut à demi. J'étais irritée. Je faillis lui dire « Pour une fois que je ne mens pas !» Nous pleurâmes. Mais ces confuses parties d'échecs sont interminables, épuisantes, si l'un des deux n'y met bon ordre. En somme, l'attitude de Marthe envers Jacques n'était pas flatteuse. Je l'embrassai, la berçai. « Le silence, dis-je, ne nous réussit pas. Nous nous promîmes de ne rien nous sceller de nos pensées secrètes, moi la plaignant un peu de croire que c'est chose possible. » À J, Jacques avait cherché des yeux Marthe. Puis, le train passant devant leur maison, il avait vu les volets ouverts. Sa lettre la suppliait de le rassurer. Il lui demandait de venir à Bourges. « Il faut que tu partes, » dis-je, de façon que cette simple phrase ne sentit pas le reproche. « J'irai, » dit-elle, « si tu m'accompagnes, C'était pousser trop loin l'inconscience. Mais ce qu'exprimaient d'amour ces paroles, ces actes les plus choquants, me conduisait vite de la colère à la gratitude. Je me cabrais, je me calmais. Je lui parlais doucement, ému par sa naïveté. Je la traitais comme un enfant qui demande la lune. Je lui représentais combien il était immoral qu'elle se fît accompagner par moi. Que ma réponse ne fût pas orageuse, comme celle d'un amant outragé, sa portée s'en accrut. Pour la première fois, elle m'entendait prononcer le mot de « morale ». Ce mot vint à merveille, car, si peu méchante, elle devait bien connaître des crises de doute, comme moi, sur la moralité de notre amour. Sans ce mot, elle eût pu me croire amorale, étant fort bourgeoise, malgré sa révolte contre les excellents préjugés bourgeois. Mais, au contraire, puisque pour la première fois je la mettais en garde, c'était une preuve que jusqu'alors je considérais que nous n'avions rien fait de mal. Marthe regrettait cette espèce de voyage de noces scabreux. Elle comprenait maintenant ce qu'il y avait d'impossible. « Du moins, dit-elle, permets-moi de ne pas y aller. » Ce mot de « morale » prononcé à la légère m'instituait son directeur de conscience. J'en usais comme ces despotes qui se grisent d'un pouvoir nouveau. La puissance ne se montre que si l'on en use avec injustice. Je répondis donc que je ne voyais aucun crime à ce qu'elle n'allât pas à Bourges. Je lui trouvais des motifs qui la persuadèrent, fatigue du voyage, proche convalescence de Jacques. Ces motifs l'innocentaient, sinon aux yeux de Jacques, du moins vis-à-vis de sa belle famille. À force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait, je la façonnais peu à peu à mon image. C'est de quoi je m'accusais, et de détruire sciemment notre bonheur. Qu'elle me ressemblât et que ce fût mon œuvre, me ravissait et me fâchait. J'y voyais une raison de notre entente. J'y discernais aussi la cause de désastres futurs. En effet, je lui avais peu à peu communiqué mon incertitude, qui, le jour des décisions, l'empêcherait d'en prendre aucune. Je la sentais comme moi, les mains molles, espérant que la mère épargnerait le château de sable, tandis que les autres enfants s'empressent de bâtir plus loin. Il arrive que cette ressemblance morale déborde sur le physique. Regards, démarches. Plusieurs fois, des étrangers nous prirent pour frères et sœurs. C'est qu'il existe en nous des germes de ressemblance que développe l'amour. Un geste, une inflexion de voix, tôt ou tard, trahissent les amants les plus prudents. Il faut admettre que si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est que celle-ci est moins raisonnable que notre cœur. Sans doute sommes-nous tous des narcisses, aimant et détestant leur image, mais à qui tout autre est indifférente. C'est cet instinct de ressemblance qui nous mène dans la vie, nous criant « halte » devant un paysage, une femme, un poème. Nous pouvons en admirer d'autres sans ressentir ce choc. L'instinct de ressemblance est la seule ligne de conduite qui ne soit pas artificielle. Mais dans la société, seuls les esprits grossiers sembleront ne point pécher contre la morale, poursuivant toujours le même type. Ainsi, certains hommes s'acharnent sur les blondes, ignorant que souvent les ressemblances les plus profondes sont les plus secrètes.